Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
L'INSEE a donc publié hier soir un diagnostic tout frais sur l'état de l'économie française. On vous écoute.
Alors, on commence par l'été, c'est-à-dire une petite rétrospection, franchement pas si mal, grâce notamment à une saison touristique exceptionnelle pour la plupart des régions françaises. La carte dressée par l'Institut de Statistique est spectaculaire. En août dernier, la quasi-totalité des départements français sont en forte hausse par rapport à un an avant, grâce au boom du tourisme des Français qui ont pris leurs vacances en France. À l'exception notable de Paris, bien sûr victime de la défection des visiteurs étrangers, tout comme la Seine-et-Marne, à cause d'Euro Disney bien sûr. Un été qui laissait augurer d'une bonne reprise progressive et solide. Mais à la rentrée, avec la seconde vague de l'épidémie, les perspectives changent, le redémarrage a fait long feu et la croissance pourrait très bien être plate, voire négative sur le quatrième trimestre, ce qui nous laisserait à la fin de l'année à moins 5% d'activité économique par rapport au niveau qui prévalait avant la crise sanitaire.
Ça veut dire que l'on ne peut plus croire à une reprise ?
Pas une reprise franche. L'INSEE intitule d'ailleurs sa note « L'économie diminuée ». C'est-à-dire amputée des secteurs durablement affectés par l'épidémie. Ouais. Les hôtels-restaurants, le tourisme, les transports aériens, qui, au total, comptent pour 9% de la croissance en France. Ça correspond tout à fait au pronostic fait par l'hebdomadaire The Economist, on en avait parlé ici même, qui annonçait récemment une économie à 90%, c'est-à-dire amoindrie durablement d'un dixième de son potentiel durant le temps que dure l'épidémie.
Avec quelles conséquences pour l'emploi, François ?
Elles sont bien sûr assez fortes, plus de 800 000 emplois disparus, principalement des postes salariés, mais compte tenu du choc, pas si importante que ça. L'emploi se contracterait en effet de 3%, alors que l'activité en moyenne annuelle serait à moins 9%. Moins 3, moins 9, il y a eu un pare-choc. Il a été double. D'abord les dispositifs de chômage partiel qui ont permis de limiter les pertes, et puis aussi le fait que les entreprises n'ont pas licencié à la mesure de leur chiffre d'affaires. Au total, le taux de chômage serait de 9,7% à la fin de l'année, selon les prévisions de l'INSEE, c'est-à-dire un taux bien plus élevé qu'avant l'épidémie, mais plus faible qu'en 2013 et en 2014, où il était supérieur à 10%.
Côté pouvoir d'achat, ça donne quoi ?
Sur 2020, le pouvoir d'achat ne chuterait que d'1% environ, nous dit l'INSEE, c'est-à-dire là aussi une baisse bien plus faible que celle de l'économie en général. Un écart très important qui est à attribuer là encore à l'action publique, aux prestations sociales, les allocations de chômage partiel en particulier, prestations financées par l'État, c'est-à-dire par le déficit.
Oui.
C'est le creusement de la dette qui a permis d'amortir considérablement le choc social pour les ménages. Mais, précise l'INSEE, attention, cette faible chute du pouvoir d'achat, faible si je puis dire, c'est quand même important, mais ça n'est qu'une moyenne qui dissimule des disparités très importantes.
Ouais.
Les précaires, intérimaires, indépendants ont pu voir leurs revenus diminuer bien davantage que la moyenne.
Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve bien entendu tous les matins sur RTL.